Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Présence Figeac 97.7 avec un nouveau épisode des Mille et Une Bulles. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Serge Ernst, qui est dessinateur et qui nous a fait le plaisir de nous accorder cette interview. Monsieur Ernst, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, très bien.
Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation.
Donc, avec grand plaisir.
Je vais vous poser la première question que je pose à chaque fois, c'est quelles BD ont bercé votre enfance ?
Ah, alors moi, en fait, il y en a plusieurs, parce que bon, je suis belge d'origine, donc j'habitais la Belgique. Maintenant, depuis 40 ans, j'habite dans le Gers. Mais en fait, donc j'ai été bercé par l'école belge, quoi. C'était les Franquin, j'aimais bien Modeste et Pompon, les Chlorophylles de Marchereau, les Schtroumpfs. Et puis quand j'ai grandi un peu, j'ai pris une grande claque en découvrant Gilles Jourdan de Tillieux.
Ah oui.
Ah ouais, c'est vraiment une BD qui m'a impressionné. Je relis d'ailleurs tous les 5-6 ans, je relis tous les Tillieux, entre autres. Je fais ça aussi avec les Tintins, parce que j'adorais ça, avec les Astérix, qui sont les grands classiques. Mais voilà, mes premières BD, c'est vraiment les BD de l'école belge, ouais.
Mais moi, vous parlez de certaines séries, j'y pensais plus, mais Chlorophylle de Machereau, oui, j'ai beaucoup aimé, moi aussi, de mon côté.
Ah oui, et puis ouais. Moi, j'habitais tout près de chez eux, en fait. Moi, j'étais à 5 km de chez Machereau, j'habitais à 2 km de chez Haussmann et 2 km de chez Didier Comès.
Et vous êtes vénard, hein?
Ah, voilà, donc on se voyait de temps en temps. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion à l'époque, tout au début de ma carrière, d'aller travailler une semaine dans l'atelier de Didier Comès, qui m'avait accueilli, qui m'expliquait un peu comment ça se passait dans le métier et tout. C'était très, très instructif, très austère aussi. Je me suis rendu compte qu'on travaillait beaucoup en étant auteur de BD.
Et oui, c'est chronophage. Hein.
Oui.
Et justement, vous parlez tout à l'heure de au niveau Belgique, parce qu'à l'époque, vous avez suivi donc à vos débuts les cours de l'Institut Saint-Luc de Saint-Liège, et après avoir été élève, vous avez même été professeur d'illustration pendant un an. Racontez-nous cette période.
Exactement. Oui. J'ai suivi les cours d'illustration. Ça s'appelait les cours d'illustration à l'époque. Donc c'était deux cycles de 3 ans. J'ai pas terminé le dernier cycle parce que j'ai eu l'occasion de rentrer dans la vie active directement dans le journal Tintin. Et comme j'étais devenu directement professionnel, ça avait un petit peu impressionné les professeurs de Saint-Luc à Liège. Donc ils m'ont demandé si j'étais d'accord de donner cours d'illustration pendant un an. Et puis après, bon, je devais suivre des formations pour être validé, ce que j'ai pas eu le courage de faire. Donc ça n'a duré qu'un an, mais ça a été une très 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 belle expérience. Et j'avais une classe avec qui je m'entendais vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai gardé des contacts avec au moins 4 ou 5 de ses élèves avec qui on s'écrit régulièrement.
Ah, ça va être bizarre quand même d'être élève et du coup de l'année d'après d'être prof, non ?
Oui, mais en fait, bon, je me prenais pas la tête et d'emblée, je leur avais dit, j'avais quasiment leur âge, j'avais que 2 ou 3 ans de plus qu'eux, et je leur avais dit, ce sera plutôt l'ambiance atelier, on travaille ensemble, chacun peut apporter des idées, des innovations ou quoi que ce soit, et moi je suis là un peu pour les guider, mais vraiment, je leur ai dit que je voulais pas me prendre la tête. Ils m'ont un peu testé au début, hein, ils ont voulu me faire un petit peu une sorte de baptême de l'air, mais je leur ai dit d'emblée, bon, si vous le prenez comme ça, vous allez faire des logos à longueur de journée, et puis je vous foutrai la paix. Mais ils ont très vite compris qu'en fait, j'avais aucune intention d'être dirigiste et autoritaire avec eux. Et c'est vraiment l'esprit atelier qui s'est créé au fil de l'année, et on se réjouissait de se voir tous les mardis, tous les jeudis. C'était très, très, très sympa, ouais.
Et du coup, moi, parce que vous en avez parlé tout à l'heure de Didier Comès, justement, c'est à l'époque, c'est votre ami François Valtieri et Didier Comès qui vous ont persuadé de faire de la BD. Et en 1975, le journal Tintin, vous avez proposé vos clins d'œil à l'époque. Mais vous avez travaillé, je crois, pendant 15 ans chez Tintin, c'est ça?
Voilà, c'est ma carrière se déroule un petit peu par tranche de 15 ans environ. C'est 15 ans chez Tintin, 15 ans chez Spirou, j'espère 15 ans chez Bambou.
Oui.
Mais c'est vrai qu'au début, le premier auteur qui m'a accueilli vraiment chez lui tous les samedis matins, c'est François Walteri. Je lui dois vraiment beaucoup, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur et il m'a vraiment donné de très bons conseils. D'ailleurs, c'est une anecdote marrante parce qu'en fait, j'allais lui montrer mes dessins, mais j'étais vraiment pas très bon. Et bon, finalement, j'ai quand même réussi à faire une carrière. Et une dizaine d'années après, on s'est revus avec François Walteri et il m'a dit, tu sais, quand tu venais me montrer tes dessins et tout, j'aurais jamais misé un seul copec sur toi tellement t'étais mauvais.
Ah oui, d'accord, il a été honnête.
Ah oui, oui, oui. Et puis, en même temps, il était heureux que je parvienne quand même à être publié, à trouver ma place dans le métier, etc. Donc, mais oui, c'était pas bon. Et il me rappelait d'ailleurs une histoire qui est arrivée à Franquin. Franquin avait reçu un courrier d'une petite fille qui lui avait envoyé des dessins par la poste. Et bon, Franquin, c'est vraiment un mec charmant, extraordinaire, et qui répondait à tout le monde. Et il avait répondu à la petite fille, dont les dessins n'étaient pas terribles, hein. Continue, il faut persévérer, etc. Et quelques années après, lors d'un festival BD à Bruxelles, au Salon du Livre, il y a une femme qui est venue lui taper sur l'épaule, et en fait, c'était Claire Bretéché, qui venait le remercier de l'avoir encouragé, en fait.
Ah ouais, j'imagine quand même le destin, là.
C'est pour ça que Walteri avait agi de cette manière avec moi. Il m'avait pas découragé. Il m'avait dit continue, persévère, etc. quoi. Mais voilà, il a eu raison de le faire et moi j'en suis heureux parce que j'ai pu faire ma carrière en faisant de la BD. Ouais.
D'ailleurs, je vais me permettre, monsieur, de te faire un petit clin d'œil à François Walteri et de lui dire bien sûr que nous l'accueillerons avec plaisir dans les Mille et une Bulles.
Ah oui, mais
ça serait vraiment génial parce que j'avoue, j'aime beaucoup le papa de Natacha, entre autres.
Oui.
Ça nous a bercé, ça.
C'est un chic type, comme on dit en Belgique.
Oui, tout à fait. Et justement, donc, ces petits clins d'œil pour venir à... Comment vous est venue cette idée à l'époque? Parce qu'en fait, vous avez après publié chez Le Lombard à peu près 9 tomes des clins d'œil.
Oui, voilà. C'est 8 plus un best-of, exactement.
D'accord.
En fait, moi, j'étais à l'époque très, très influencé par Mordillo.
C'est
le dessinateur argentin, là, c'était, même en suivant les cours à Saint-Luc, Liège, là, on était tous fascinés. C'était vraiment l'exemple type de l'illustrateur parfait au niveau graphisme, etc. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup influencé. Donc, du coup, mes premiers clins d'œil, quand j'ai commencé à dessiner, je voulais faire du gag en une page, une page illustrée en couleur directe. Et quand j'ai été présenté mes dessins à Bruxelles dans les différentes rédactions, quand je suis arrivé chez Tintin, c'était un nouveau rédacteur en chef, c'était Henri Desclés, qui est décédé récemment d'ailleurs, et qui voulait un petit peu marquer de sa griffe le journal, et qui voulait un peu chambouler, mettre des choses nouvelles, etc. Et moi, avec mes gags en une page couleur, ça sortait un peu du lot, parce que ce n'était pas de la BD style traditionnel, avec des cases qui se suivent, mais une grande image avec un gag. Donc ça lui a plu, il m'a dit, bon, c'est bon, t'es engagé. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers clins d'œil dans le journal Tintin.
Et justement, donc après il y a eu ça... avec Tintin, bien sûr, mais vous êtes ensuite tourné vers la BD d'humour, j'ai vu, alors je dis, vous me dites si je me trompe, vous avez fait donc une série qui s'appelle Les Égarés en 77, William Lapoire en 78, Les Cases de l'Oncle Ernst en 83. Parlez-nous de ces albums-là, qui sont peut-être méconnus pour certains auditeurs.
Oui, alors en fait, c'est un petit peu le fruit d'une situation de fourniture de planches à la rédaction, parce qu'en fait j'étais assez productif et le rédacteur en chef m'a dit, bah écoute, tu produis un peu trop, on aimerait bien que tu fasses autre chose en plus pour nous. Donc c'est comme ça que j'ai créé Les Égarés. Les Égarés, c'est pour un autre journal, c'est le frère de Tintin, c'était Junior. Et donc je faisais les couvertures de Junior, ça me permettait de faire également des illustrations pleine page couleur. Et puis après ils m'ont dit, moi je leur ai dit que j'aimais bien les histoires sans parole, et ils m'ont dit bon, ben fais des courtes histoires, voilà. Et puis j'ai fait Les Cases de l'Oncle Ernst, j'en ai pas fait énormément, ça n'a jamais été publié en album sauf par les éditions, j'ai oublié le nom de au-dessus de Toulouse, mais bon, j'ai un trou de mémoire au niveau du nom, mais c'était un album très intimiste qui n'a pas été diffusé dans le circuit traditionnel de vente de BD. Mais moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Voilà, c'est un peu parce que là, à l'époque, je produisais trop vite. Maintenant, c'est vraiment le contraire. Je produis vraiment très lentement, quoi.
Et justement, à l'époque, donc, vous avez créé une série qui s'appelait donc Les Zappeurs, et ouais. Ensuite Zapping Génération, j'ai vu. Et ça, c'est une série qui avait bien marché, par contre.
Voilà. Alors au journal Tintin, à la fin, ça s'était mal passé. Il y a eu un nouveau directeur qui est venu, qui a un peu tout cassé. Et voilà, moi, j'en ai subi les frais. J'ai été éjecté. Donc, je suis passé chez Jules de chez Smith en face. Hein, j'étais chez le concurrent et j'ai présenté du coup plusieurs projets de séries. Et ils ont accepté un des projets qui était Les Zappeurs. Donc, c'était une famille face à la télévision. Et puis au fur et à mesure des albums, les ventes diminuaient un petit peu et les grands savants du marketing là m'ont dit bon, et on va booster la série, on va changer la maquette et puis le nom aussi, ça va s'appeler Zapping Génération, etc. Et à partir du moment où ils ont fait ça, les ventes ont chuté, quoi. Donc voilà, et puis ça s'est terminé pas très bien non plus à la fin chez Dupuis. Donc c'est pour ça qu'après je me suis retrouvé un petit peu une période un petit peu difficile où je me suis retrouvé sans boulot. J'ai fait un petit peu des étiquettes de la publicité, et même ici dans le Gers, j'ai fait des étiquettes de foie gras. C'était très gai, hein, parce que oui. parfois j'étais payé en nature, donc c'était très bien. Très sympa. Ouais Et voilà, et puis un jour j'ai téléphoné à Zidrou je lui ai envoyé un mail pour lui demander s'il n'avait pas un scénario dans ses tiroirs. Mais bon, je sais pas si c'est le moment d'en parler tout de suite ou bien si on en parle après.
Ben, disons qu'en fait, j'avoue, parce que bon, malheureusement, c'est que l'émission est courte.
Oui.
Ce qui m'intéresse beaucoup sur votre carrière, c'est depuis en fait 2012. Vous avez fait une série qui s'appelle Boule à zéro avec l'association 2000 BD que vous occupez.
Voilà.
Et cette BD, en fait, vous allez nous expliquer, bien sûr, mais vous la distribuez après à des enfants qui sont malheureusement malades pour leur redonner le sourire. Expliquez-nous cette association.
Voilà. Alors, donc, en fait, ça rejoint ce que je commençais à expliquer tout à l'heure. J'avais téléphoné à Zidrou pour savoir s'il n'avait pas un scénario à me proposer. Donc, il m'a proposé Boule à zéro qu'il avait dans ses tiroirs depuis 15 ans. Déjà, personne ne voulait le faire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, je lui ai dit, je vais le faire. Il m'a dit, très bien, tu te débrouilles pour trouver un éditeur parce que ça va être compliqué. C'est vrai que ça a été refusé partout, sauf chez Bambou. Et c'est comme ça que ça a démarré chez Bambou. Et parallèlement, moi, j'ai eu l'idée, parce que j'étais me documenter avant de faire la BD, de la dessiner. J'étais me documenter à l'hôpital des enfants à Toulouse. J'ai pu y faire quelques photos. C'était un peu compliqué, mais bon, j'ai eu les autorisations et puis j'ai pu avoir ma documentation. Et là, j'ai eu un peu un déclic. Je voyais parfois ses parents, la détresse des parents ou des enfants, apprenant que qu'ils étaient malades, qu'ils avaient une maladie grave, etc. Et je me suis dit, tiens, comme ce sujet-là de la BD les concerne, ce serait bien si on pouvait offrir la BD à tous ces enfants malades dans les hôpitaux. Et c'est comme ça qu'a été créée l'association 2000 BD. Alors 2000 parce que il y a environ 2000 enfants touchés par le cancer, France-Belgique confondu, par année. Bon, d'après les statistiques, les enfants, c'est de 0 à 15 ans. Mmh. Et puis, il y a différents types de cancers, etc. Donc, globalement, disons que c'est environ 2000. Et ça me permettait de rappeler dans le nom ce chiffre qui est dramatique, quand même, 2000 enfants touchés par le cancer en France, Belgique. Alors, j'ai d'abord commencé à prospecter seul. Mais c'était compliqué parce que j'étais, entre guillemets, une personne physique et pas une association. Donc, j'ai créé une association. Et à partir de ce moment-là, ça a été plus facile de récolter des dons. Et j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé. Et ce qui m'a permis à chaque sortie d'album de Boule à zéro d'en acheter 2000 à mon éditeur, Bambou, qui me les a fait à moitié prix. Enfin, qui les a fait à moitié prix à l'association. Et ensuite, j'ai eu d'autres partenaires qui m'ont aidé à les distribuer dans les différents hôpitaux de France, Belgique, Suisse, etc. Enfin, Suisse francophone. Et c'est comme ça que la répartition, la distribution se fait chaque fois qu'une nouveauté de Boule à zéro sort.
Et puis j'avoue, enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, j'avoue, j'apprécie fortement cette série et justement ce qu'elle permet de donner le sourire à des enfants. On va faire une petite pause, Monsieur Ernst, avec une pause musicale que vous avez choisie. C'est oui. Etta James, At Last, et on se retrouvera après. Merci, Monsieur.
Présence à Figeac 97.7.
Et nous voilà de retour à l'antenne des Mille et une Bulles que nous consacrons donc cette semaine à Serge Ernst, le créateur, entre autres, de la série Boule à zéro. Monsieur Ernst, juste une petite question à part de votre carrière. Est-ce que vous avez le temps de faire autre chose dans la vie? Est-ce que vous avez d'autres passions que la BD?
Oui et non, mais c'est-à-dire je suis déjà très bien occupé, parce que bon, d'une part, cette association, là, ça me prend déjà pas mal de temps. Mmh. Et puis, je m'occupe aussi d'un festival de BD à Ayoz, dans le Gers, toujours. Mmh. Ça aussi, ça me prend pas mal de temps. Ça a lieu tous les premiers dimanches du mois d'août. Et là, on sera à la 31e édition cette année. Donc, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Auprès de mon arbre.
Oui, j'ai vu. Oui.
Voilà. Et ça, c'est un bouquin dont je suis très fier. Je l'ai fait avec une association gersoise qui s'appelle Arbre et Paysage 32 sur l'agroforesterie, la protection des haies, la réhabilitation des arbres dans les champs, etc. C'est vachement instructif. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Je me suis vraiment passionné pour ce sujet. On a sorti un bouquin qui est hors commerce, mais qu'on peut trouver sur le site jolajeunette.com. Jo La Jeunette, c'est un personnage que j'ai créé, qui est un petit peu le personnage fil rouge de cet album. C'est une jeunette. D'accord. Alors, jeunette, c'est le chat du Moyen-Âge. On en a dans le Gers, d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'en filmer avec une petite caméra de nuit dans la campagne. C'est un très, très très bel animal.
D'accord.
Donc voilà, avec tout ça, ben non, sinon j'aime bien faire un petit peu de photographie, mais en, voilà, en amateur, quoi.
Et on va revenir donc à la question, c'est une nouvelle question rituelle que je donne à mes auteurs invités. Au niveau de la technique, vous travaillez plutôt en traditionnel ou en numérique ?
Alors maintenant, en numérique, mais un petit peu forcé, parce que j'ai un petit souci de, comment dire, un petit souci de santé. Je tremble un peu des mains, c'est pas du Parkinson, ça s'appelle le tremblement essentiel. Je sais que Clara Luciani a communiqué là-dessus, parce qu'elle elle a le même souci. Bon, c'est pas très grave dans mon cas, donc, mais ça me gênait suffisamment pour dessiner. Comme je suis assez geek et assez à l'aise avec l'informatique, eh ben je me suis lancé dans le dessin sur tablette. J'ai acheté un iPad Pro et avec un logiciel parfait, j'ai pu compenser ce souci-là, parce que dans le logiciel, il y a une fonction qui s'appelle stabilisation et qui permet à un trait tremblé d'être lisse comme un trait de Walt Disney, quoi. Donc j'ai redécouvert vraiment le plaisir énorme à dessiner, et ça m'a sauvé. Voilà, donc du coup je me régale. En plus c'est beaucoup beaucoup plus confortable que le dessin. C'est moins sensuel au niveau toucher, mais c'est beaucoup plus pratique, parce que si je fais un trait de travers, bah hop, je peux l'effacer facilement ou le supprimer. Je peux travailler avec des calques, c'est-à-dire mettre mon personnage par au-dessus du décor et le déplacer un peu si je le trouve mieux mis en page, un peu à droite qu'un peu à gauche, etc. Bon, c'est des chipoteries, ça prend autant de temps que si on travaille sur papier, mais c'est beaucoup plus confortable techniquement, en fait.
Vous avez su rebondir de votre situation.
Oui, absolument.
Donc maintenant, je vais vous prendre un petit jeu que je vous propose chaque invité. Donc c'est ce qu'on appelle un portrait chinois, donc je vous pose des questions et vous me répondez du tac au tac, ce qui vous passe par la tête à ce moment-là.
Bon, d'accord.
Alors la première question, mais en fait c'est, on en a parlé tout à l'heure, si vous étiez un arbre, vous seriez lequel ?
Ah, un arbre, alors je ne sais pas si le bambou est considéré comme un arbre.
Ah, on peut dire, je ne sais pas non plus, oui.
Ouais, mais j'adore les bambous, alors c'est pas, je cite pas bambou parce que je suis corporate. Hein,
ce que j'allais dire, là il nous a filé un clin d'œil plus, oui. c'est joli là, j'avoue. Olivier, si tu nous entends, Serge a fait un sacré clin d'œil.
Non, mais c'est vrai que j'adore les bambous. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller dans des bambouseries, et je trouve qu'il se passe quelque chose quand on se trouve au milieu d'une bambouserie. C'est très apaisant, et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup les bambous, oui, absolument.
Alors, on va rester dans la nature. Si vous étiez une saison.
La saison, oh, ce serait le printemps. En plus, dans le Gers, ici, au printemps, la nature est flamboyante, elle est grasse, elle est très très belle. Non, oui, puis le printemps annonce l'été, ce qui est une saison que j'adore. Donc voilà, oui, je dirais le printemps.
D'accord. Et si vous étiez un pays ?
Ah ben, la Belgique. Parce que je suis très très fier d'être belge dans mon cœur, en fait. Mmh. Je me sens toujours très belge, même si j'ai pris la nationalité française et que ça fait 40 ans que j'habite ici. Oui, je me sens, j'aime bien les Belges, j'aime bien y retourner, j'aime bien l'humour belge. Oui, la Belgique, sans conteste, ouais.
Et je pense que, on va dire, sans être... c'est que le Gers a pris une partie de votre cœur, quand même.
Oui, aussi, oui, bien voilà. Sûr.
Absolument. Si vous étiez une émotion...
La joie.
Ah.
Oui.
Vous êtes d'humeur joyeuse.
Bon, écoutez, je suis heureux de vivre, en fait. Moi, je dirais la joie. J'aime l'humour. J'aime le plaisir de vivre. Je suis un épicurien, un hédoniste. Voilà. Oui, la joie.
Si vous étiez une planète.
Alors moi, quand j'étais petit, j'ai été fasciné par l'homme qui a marché sur la Lune, que j'ai vu en direct. J'étais à la plage, enfin à la côte belge à l'époque, et on avait été chez des gens qui nous avaient accueillis, ils avaient la télévision, on avait regardé. Donc je dirais la Lune, parce que ça m'a toujours fait rêver, c'est surtout la conquête de la Lune. Mais bon, maintenant j'ai autant de fascination pour la conquête de Mars et tout ce qui se passe autour de ça, donc je dirais maintenant Mars, voilà.
Moi, j'avoue, mais oui, je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que j'ai, voilà, la conquête de la Lune, avec la célèbre phrase, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, ça c'était magnifique.
Oui. Donc,
ça m'a marqué pas mal, ça aussi.
Absolument, ouais.
Si vous étiez un animal.
Alors, un animal...
Même sauvage.
Oui, oui. Il y a des années, j'ai vu un reportage sur les autours. Les autours, c'est des genres de grands rapaces d'Amérique du Sud, et qui sont capables de planer durant des heures sans donner un seul coup de battement d'aile, en fait. Et oui, j'avoue que ça m'a fait rêver, quoi. Planer durant des heures sans effort, ça m'a toujours fasciné. Donc voilà, je dirais un autour.
Oui, j'avoue que c'est ce que je faisais au fond de la classe, moi aussi. Je planais pendant des heures, voilà. Attends que ça passe. Si vous étiez une invention, ou si vous aviez fait une invention.
Invention, j'allais dire la roue, mais c'est très 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 prétentieux. Mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est vieille voiture, enfin ancienne voiture plutôt. Non, on ne dit pas vieille voiture, ancienne voiture, les beaux modèles, même tout ce qui bouge, tout ce qui roule, même les avions, tout ce qui est mécanique. J'avoue que j'aime encore bien. Oui, quand j'étais petit, j'allais voir les courses à Francorchamps. Pas loin de la ville où j'habitais, en Belgique, les courses automobiles. Donc oui, voilà, c'est un peu prétentieux, mais je dirais la roue.
Non, c'est pas prétentieux. Comme je dis, c'est du tac au tac. Vous pensez ce que vous passez par la tête. Si vous étiez un jeu de société.
Le Scrabble, parce que j'aime bien ce jeu-là. Et...
Vous êtes amateur de Scrabble ?
Alors, je suis pas un amateur. J'aime bien jouer de temps en temps au Scrabble en famille ou avec des amis. Je ne joue pas très souvent, mais c'est vrai que quand on a le choix d'un jeu, je propose toujours Scrabble. Si les autres sont d'accord, on joue Scrabble. Et ça me plaît. J'aime bien jouer avec les mots. Donc, voilà un jeu qui me convient, oui.
Et donc, voilà, parce que malheureusement, il va falloir finir l'émission. Donc, on va finir sur la dernière question. Si vous étiez un homme célèbre.
Alors là, je choisirais Charlie Chaplin.
Ah oui, beau.
Ah ouais,
magnifique.
J'ai vu sur Arte il y a deux une semaine toute une émission sur lui. C'est un personnage fascinant, extraordinaire, génial. Enfin bon, et qui faisait des choses comme il les sentait avec son cœur, qui ne suivait pas toujours les conseils des autres. Voilà, oui, Charlie Chaplin sans conteste, vraiment un grand homme.
Très belle, ouais, pour finir l'émission, c'est magnifique. Donc je vous remercie, monsieur Ernst, d'avoir pris le temps de répondre aux mille et une bulles.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous allons donc laisser, chers auditeurs, en vous rappelant que la semaine prochaine, mais un autre ami belge, avec la personne de Jean-Marc Krinks, dessinateur et scénariste, qui sera à l'antenne avec nous. Merci, monsieur Ernst, et on se retrouve la semaine prochaine avec monsieur Krinks. Au revoir.
Au revoir.
Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.